Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le monde des mots et des mythes. Ici Elicia et ceci est l'épisode 8. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre et un mythe qui abordent des thèmes essentiels comme l'amour, la perte, le regret et tenter de réparer l'irréparable. Mais avant tout, nous sommes fidèles à nos habitudes. Alors nous allons commencer par quelques informations cinématographiques et littéraires. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors commençons avec trois films. Le premier, il est avec l'actrice française incontournable, Alexandra Lamy. Ce film est appelé « Pour le plaisir ». Il nous plonge dans l'intimité d'un couple marié depuis 20 ans qui découvre que la femme n'a jamais eu d'orgasme.
Pourquoi vous venez me voir qu'aujourd'hui ?
Je n'ai jamais eu d'orgasme.
Si vous voulez jouir, va falloir bosser.
Ça marche pas. Bon.
Travailler de lâcher prise.
Oui, oui, oui !
Gérer la culpabilité. J'ai envie de jouir. J'ai le droit.
Il va falloir parler à votre mari.
En 20 ans, t'as jamais joué ?
Non.
10 femmes sur 10 avouent déjà avoir simulé.
La taille moyenne au repos serait de...
Dame !
J'aimerais comprendre comment fonctionne le plaisir féminin.
Odile, mon petit, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Vous inquiétez pas, on va pas déshabiller Odile.
Premier cadeau que j'ai fait à ta mère.
L'adorer que je lui fabrique des trucs.
Un film qui nous promet des rires et beaucoup d'amour. Le prochain film, en revanche, est un peu moins joyeux. En effet, dans celui-ci, ils vont découvrir une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier en construction à Londres. Il faut donc très vite évacuer le quartier de la ville. Opportunité parfaite pour un groupe de criminels qui vont vouloir faire un hold-up. Ce film, c'est The Criminals, avec le célèbre acteur de 4 dans Divergente, Theo James.
Cette zone est en cours d'évacuation.
On a trouvé une ancienne bombe sur un chantier pas loin. On évacue tout le monde.
Colonel.
On a une munition non explosée à Westminster. Je vous transfère tout de suite les images.
Seconde guerre. On dirait une 500 kilos. Faut un périmètre de sécurité d'un rayon de 800 mètres. J'arrive tout de suite.
Et elle peut exploser n'importe quand ?
En théorie, ouais.
Périmètre sécurisé. Vous pouvez continuer.
On va être obligé de couper le courant dans tout le secteur jusqu'à ce que la bombe soit neutralisée.
C'est bon. Réglage 12 heures, aluminium.
Là, ça se complique un peu.
On y est.
Madame, regardez. Passant thermique. Il devrait rien y avoir. On va devoir investiguer.
Je m'apprête à vérifier l'entrée.
Les flics !
Les flics, restez tranquilles.
Putain, elle est active.
Un cambriolage majeur a eu lieu dans une banque à Edgware Road.
Suivez le plan !
Logo de la compagnie des eaux.
Envoyez ça à toutes les unités.
On a une deuxième fusée avec minuteur, elle est active.
Tous à couvert, maintenant !
On devrait tester la signature chimique de l'explosif.
On teste pas les bombes de la Seconde Guerre.
Justement, chef, je suis pas sûr que ce soit une bombe de la Seconde Guerre.
Et le dernier film pour ce 6 mai, c'est un film du réalisateur qu'on ne présente plus, James Cameron. Et non, il ne revient pas avec Avatar 4, mais avec un film en coproduction avec la célèbre chanteuse Billie Eilish. Le film s'appelle Hit Me Hard and Soft, The Tour. Et comme vous l'avez compris, il revient sur la dernière tournée à succès de Billie, une expérience immersive en 3D.
That's James Cameron.
No one shot a concert film on this scale before.
How you feel tonight? Where do we go?
We're using tech that's never been used before.
Can't wait.
So you're right.
Gonna be loud.
Duh.
You told me you carried a lot of pain with you throughout the tour.
Yes.
Do you see the scrapes on my hands? That is from the fans.
Here I go.
Le prochain film est un film qui sera présenté à l'ouverture du célèbre Festival de Cannes, cette année. C'est La Vénus électrique, un film qui se déroule à l'époque du Paris burlesque et fantasmé de 1928, pendant l'entre-deux-guerres.
Je vous propose 100 francs par tableau achevé et 150 francs pour les grands formats.
Peins le monde pour moi.
Elle m'a demandé de peindre, c'est merveilleux ça. J'avais pas touché un pinceau depuis son décès.
Ah Irène, si tu savais, ce lac.
Je voudrais parfois y retourner et m'y laisser couler.
Hein? Je te l'interdis, tu m'entends?
Ce film sortira le 13 mai. Et ce même jour sortira aussi un autre film inspiré d'un jeu vidéo qui pourra sûrement intéresser les plus fans de ce jeu, mais qui pour ma part est complètement inconnu. C'est Mortal Kombat 2.
Johnny Cage, tu as été choisi pour combattre. Oh, me dites pas que vous êtes des fans débiles. Comment tu fais ça?
Vous nous suivez ou pas?
Je suis où, bordel?
Ça s'appelle le Mortal Kombat. C'est un tournoi d'arts martiaux. Un tournoi à mort.
Va chier. Je suis pas un de vos champions. J'ai pas des bras de Transformers. Mes mains lancent pas des éclairs. J'ai rien à voir avec ce merdier. Je suis un acteur.
Enfin, pour finir sur les sorties cinématographiques, cette fois plus vers la fin du mois, le 20 mai, va sortir un film qui va revenir sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Mais celui-ci, à contrario de certains films, il ne parle pas des camps de concentration ou même de la résistance. Non, cette fois on est du côté du bourreau. Pour vous dire, très proche du bourreau même. Ce film, c'est Les goûteuses d'Hitler. On intègre directement les femmes qui ont été choisies pour goûter la nourriture d'Hitler, afin de voir bien sûr si elle n'est pas empoisonnée. Et enfin, au moins un livre que je dois vous parler. En fait, j'ai déjà présenté le tome 1 en tant que sortie lors de mes dernières émissions. Ce livre, donc, c'est The Crucible, tome 2, The Things God Break. Il est de Abigail Owen, et celui-ci nous promet encore des aventures sur nos dieux grecs. Mais attention quand même, ce sont que des reprises, donc il n'y a pas toujours les mythes originaux. La partie cinéma et livre est finie. On va donc pouvoir passer au livre que je vous présente aujourd'hui. Le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est l'une de mes autrices préférées, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé. Elle a sorti un livre le mois dernier ou le mois d'avant encore, qui s'appelle La révolte de la reine. Et cette fois, je vous présente donc Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble. C'est une histoire qui va mêler habilement romance et suspense. Mais surtout, comme je l'ai dit au début, qui mêle regret et tentation de réparer l'irréparable. Dans ce livre, on y suit Camélia, une étudiante en droit passionnée par les affaires criminelles non résolues. Mais cette fois, ce n'est pas un simple dossier qui attire son attention, c'est une affaire qui la touche personnellement. Rory Cavendish, son bourreau d'enfance, est retrouvé mort dans des circonstances troublantes. Très vite, les soupçons se portent sur Lou McLister, le meilleur ami de la victime. Quelqu'un que Camélia connaît bien. Entre eux, les souvenirs sont lourds, marqués par des blessures et des rancœurs. Pourtant, Camélia va devoir mettre ses émotions de côté pour découvrir la vérité. Au fil de l'enquête, les tensions laissent place peu à peu à une relation plus complexe. Entre secrets, mensonges et révélations, Camélia et Lou vont devoir être contraints à collaborer, quitte à affronter leur passé et leurs sentiments. Comme je disais, donc ce roman explore des thèmes forts comme le pardon et la reconstruction, mais aussi les conséquences du harcèlement. Le tout dans une ambiance à la fois romantique et mystérieuse qui tient le lecteur en haleine jusqu'au bout. Je vais donc maintenant vous lire une petite partie du prologue, mais avant, je dois vous refaire un trigger warning. Ce livre contient, seulement à la fin du livre, deux scènes explicites. Ce livre donc est conseillé à un public averti et de préférence de plus de 16 ans. Ça devrait aller. Je vais donc maintenant vous lire cette petite partie. En 1895, l'écrivain Oscar Wilde fut condamné à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité. Il y aurait eu une liaison sulfureuse et décadente avec Alfred Bosie Douglas, un jeune aristocrate écossais que son père n'avait pas apprécié. Tout Londres se passionna pour ce procès, à tel point que l'histoire s'en souviendra sous le nom de scandale de Queensberry. Je suis pas un grand lecteur, je préfère les drames racontés en musique, mais mon meilleur ami m'abreuve d'anecdotes historiques dont je m'en fous. À seulement 17 ans, Rory communique par référence littéraire, par énigme qu'il invente lui-même pour s'amuser. À moins d'être constamment stimulé, mon cerveau s'ennuie rapidement. Personnellement, je pense surtout qu'il aime montrer qu'il est le plus intelligent. Je me contente généralement de hocher la tête avec un intérêt forcé et de lâcher un « waouh, vraiment ?» Ça marche jamais. Car Rory sourit toujours en me traitant de salopard inculte. Je lui réponds généralement que moi je n'oblige pas à écouter la 3e symphonie de Beethoven. Je devrais peut-être, si cela permet de le faire taire plus de 5 minutes. Ce matin, je suis venue au lycée plus tôt pour réviser quelques morceaux au violon. Je fais ça au moins 3 fois par semaine, principalement parce que j'aime le calme des couloirs avant que la journée commence. C'est bien plus paisible que chez moi où les cris et les insultes fusent au plus vite que des balles. Même le son de mon violon réussit pas à les noyer. Alors, pourquoi j'ai adoré ce livre ? Alors, faut savoir qu'à la base, c'était le tome 2 qui m'intéressait. Alors, pourquoi le tome 2 ? Parce qu'en fait, c'est des tomes indépendants. Si vous voulez, il y a 4 tomes pour 4 filles différentes. Ces 4 filles sont amies, mais en gros, si vous lisez le tome 2 avant le tome 1, vous comprendrez quand même. Enfin, tout ça pour dire qu'à la base, le tome 2 m'intéressait beaucoup plus. Mais finalement, une amie m'a offert le tome 1 à mon anniversaire. Bah, du coup, je l'ai lu forcément. Et finalement, bah, je ne l'ai plus jamais lâché non plus. En fait, on s'attache particulièrement à Camélia, qui représente une héroïne forte, déterminée, mais qui est aussi très marquée par son passé. Elle est humaine, imparfaite, et c'est justement ce qui la rend crédible et plus proche de nous. Je pense qu'avec mon propre passé, d'ailleurs, donc Camélia qui a été harcelée, j'ai réussi à me reconnaître plus facilement. Et donc, c'est ce qui a fait aussi que j'ai réussi à m'attacher énormément à ce personnage. Il y a d'autres points forts, comme la relation entre Camélia et Lou. On a une histoire qui est très intense, pleine de tensions et d'émotions. On passe de la méfiance à quelque chose de plus nuancé, ce qui rend leur évolution particulièrement addictive. On a ce qu'on appelle aujourd'hui un slow burn, donc une relation qui avance tout doucement vers ce qu'elle doit advenir, c'est-à-dire une relation amoureuse à la fin. Bien évidemment, comme je l'ai dit et que je vais le redire, il aborde des thèmes importants, hein, donc le pardon, les traumatismes et les conséquences du harcèlement. Ce ne sont pas juste des éléments de fond, hein, ils donnent un poids très profond à l'histoire, et qui invite donc à faire réfléchir le lecteur également, même si c'est à part une histoire pour se divertir. Et enfin, il y a aussi ce côté qui est complètement immersif, l'ambiance, les rebondissements, les secrets. En fait, tout est réuni pour nous garder accrochés jusqu'à la dernière page. Alors en fait, Un automne pour te pardonner, c'est donc bien plus qu'une simple histoire d'amour, c'est une quête de vérité où le cœur et la justice s'entremêlent. Donc globalement, c'est un livre qui m'a tenu jusqu'au bout. Et en créant cette émission, je l'ai relu, quelques parties bien sûr, hein, et je me suis souvenu à quel point j'avais adoré ce livre, à quel point il m'avait fait rire et à quel point il avait foutu la rage à certains moments. Mais surtout, on a un super plot twist et c'est ça qui m'a tenue jusqu'à la fin. Le plot twist ou la retournement de situation, si vous préférez, était mais super. Et je pense que cette autrice est vraiment l'une des meilleures pour ces choses-là. Donc Morgane Moncomble fait clairement partie des autrices dont je pourrais acheter le livre les yeux fermés. Son style d'écriture et comment elle emmène ses histoires, c'est juste magique. Donc enfin, si j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est foncez le lire. Bien, nous allons maintenant faire une petite pause avant de vous raconter le mythe d'aujourd'hui. D'ailleurs, prévoyez des mouchoirs car le mythe d'aujourd'hui est triste. Mais avant, dansons un petit peu sur la musique Pretty Savage du célèbre groupe féminin Blackpink.
Savage, we some yippa jangin' savage. 카펫부터 다름 짠하고 나타나면 카펫부터 가름 블랙했다 핑크했다 내 맘대로 바꿈 네 질투가 문제야 Maybe I'm the problem
De retour de la pause. Alors, c'est bon, vous êtes bien installés, vous avez pris des mouchoirs? Alors, c'est parti, je commence. Il est le fils de la muse de la poésie, Calliope, et du roi de Thrace. On dit que c'est un musicien hors pair. On dit que lorsqu'il joue de sa lyre, les arbres se penchent pour écouter, les rivières se suspendent, et même les pierres sont toutouies. On dit qu'il a rajouté 2 cordes à son instrument, afin qu'il y ait 9 cordes, représentant ainsi les 9 muses. Un hommage à sa mère. Chers auditeurs, je vous présente Orphée et sa tragique histoire d'amour. Orphée, ce jeune musicien, se baladait tranquillement, il vaquait à ses activités comme tous les jours, il jouait de sa lyre, il chantait. Comme tous les jours, les arbres se penchaient, les rivières se suspendaient, les pierres écoutaient. Et un jour, c'est là qu'il la voit. Il rencontre cette nymphe, Eurydice. Il en tombe un fou amoureux. Bien évidemment, il va la voir. Et... par le pur hasard, elle tombe éperdument amoureuse de ce beau poète. Bien sûr, ils perdent pas de temps. Hein. Dans les jours qui suivent, ils se marient. Enfin, ils auraient dû se marier. La tragédie va tomber. À peine mariée femme, Eurydice se fait mordre par un serpent juste avant sa nuit de noces. Quant à Orphée, il la trouve, mais bien trop tard. Il était accablé de chagrin. Sa musique ne ressemblait plus qu'à un désarroi. Jour après jour, il fondait dans le noir. Alors il trouva une idée un peu folle. Il va supplier Hadès de lui rendre sa bien-aimée. Alors il va descendre aux enfers et grâce à sa lyre, grâce à son chant, il va parvenir à attendrir tout ce qu'il va rencontrer. Le passeur, Charon, les chiens à 3 têtes, Cerbère, et même les souverains des enfers, Hadès et Perséphone. Alors, Hadès est d'accord, mais il y a une condition, bien sûr. Hadès ne laisserait pas partir ses morts si facilement. La condition, c'est qu'il ne doit pas se retourner pour regarder Eurydice avant d'être sorti des enfers. Orphée accepte, pensant que ce serait une tâche facile. Enfin. Orphée accepta et entreprit la remontée, et il entend à peine les pas d'Eurydice derrière lui. Il est alors rongé par le doute, l'angoisse, et juste avant d'atteindre la lumière, il se retourne. Et à cet instant, Eurydice disparut, replongeant définitivement dans le monde des morts. Orphée vit sa bien-aimée disparaître sous ses yeux, à jamais. Ce fut la fin, il s'effondre. Sa vie n'est plus faite que de gris et de noir. Elle est morose. Il ne joue plus de sa lyre, enfin si, mais ses chants chantent son désarroi et sa blessure profonde. Orphée est inconsolable. Il passe le reste de sa vie à chanter sa douleur. Selon certaines versions, il meurt tragiquement, mais son chant continua de résonner même après la mort. On dit que sa tête tomba dans une rivière et qu'elle continua de chanter tout le long de sa descente, pinçant le cœur de chacun des passants qui entendit le chant. Ce mythe parle d'amour, de la perte, mais aussi de la fragilité de la confiance. Parfois, un seul instant de doute suffit à tout faire basculer. C'est la fin de notre mythe. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, je vais vous conseiller exactement la même youtubeuse que lors de l'émission précédente. C'est les vidéos de Théophania sur YouTube. Bien évidemment, il y a aussi les grands mythes d'Arte, etc. Ou alors, il y a les livres sur les grands mythes grecs. Et c'est ainsi aussi que vous verrez que, en fonction des livres, en fonction de l'auteur ou de l'autrice, la fin et même l'histoire ne se racontent pas pareil. C'est donc la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous n'avez pas trop pleuré. Et on se retrouve une prochaine fois pour l'émission Le Monde des Mots et des Mythes. Au revoir, bonne journée ou bonne soirée.